Bonjour, si je ne vous ai pas encore salué, mon accent c'est d'outre-Manche. Mon père m'a dit, tu es anglais, il m'a dit, tu es anglais, tes ancêtres sont normands. Écoute, peut-être ben oui, peut-être ben non. Je vais essayer quand même d'être synthétique maintenant, de respecter un temps de parole de 20 minutes, c'est ce qu'on s'était dit. Passons ces quelques instants à écouter l'Évangile, à ouvrir l'esprit pour réfléchir, que ces paroles nous aident à réfléchir. Évangile, cela veut dire... Sylvain, toi qui as fait des études, Évangile veut dire...
Bonne nouvelle.
En l'occurrence, la bonne nouvelle de Jésus, qui est quand même une nouvelle incroyable. Incroyable. Écoutons les dernières versets, les dernières phrases de l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, le dernier chapitre. Pour les anglophones, it's Luke's Gospel, chapter 24. Pour situer l'histoire, Jésus a été crucifié, assassiné de façon horrible. Son corps a été mis dans un tombeau. 3 jours plus tard, son corps n'est plus là. Le tombeau est vide, est ouvert, Jésus n'est plus là. Et les disciples de Jésus commencent à se dire, il y a quelques-uns qui l'ont vu, vivant, ressuscité. Et le soir, les disciples sont réunis. Et nous lisons à partir du verset 36. Tandis que les disciples parlaient de la sorte de cet événement incroyable, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Aujourd'hui, on a vécu la reconnaissance du ministère du pasteur Sylvain. Mais pour remettre les choses à leur place, là, nous avons Jésus au centre de l'histoire. Jésus au centre de l'histoire de l'Église. C'est un moment clé, un passage clé dans la vie de l'Église, parce que lors de sa résurrection, Jésus, quand il apparaît aux disciples, là, nous avons là les 11 apôtres désignés, nous avons aussi les autres qui ont suivi Jésus. C'est l'embryon qui deviendra l'Église. C'est là l'embryon de l'Église. Et ils sont tous là, hommes et femmes, sans distinction de place, sans distinction de rang, ni de rôle. Ça va venir plus tard, mais ici, c'est l'Église réunie sous sa forme embryonnaire, sous sa forme la plus simple. Dans notre tradition d'évangélique français, on est de la tradition de ce qu'on appelle anabaptiste, on essaie de garder les choses simples, de garder les choses telles qu'elles étaient, les rôles, les places, l'assemblée telle qu'elle était au début, pas par nostalgie, mais par respect de l'histoire qui nous a été transmise. Jésus au centre de son peuple. Et je nous invite, nous qui confessons Jésus comme sauveur, comme Seigneur, nous qui mettons notre confiance en lui, je nous invite à nous reconnaître là, dans cette assemblée. C'est ça ce que veut dire l'Église, assemblée. Nous sommes là à écouter Jésus. Et je suggère que ici, Jésus indique les grands axes de ce que c'est la vie de l'Église. Jésus parle des Écritures. Il parle du témoignage que les siens vont rendre de lui. Il parle de l'Esprit Saint en leur disant qu'ils seront visités par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. On ne s'est pas concerté, Sylvain et moi, quand Sylvain a parlé de comment il conçoit le ministère du pasteur, mais là, je nous invite à prendre conscience que voici les grands axes de la vie de l'Église. Et le rôle d'un pasteur d'assemblée, le rôle des anciens, c'est d'accompagner cette Église locale, d'accompagner l'assemblée, de la diriger sur ces trois plans. Le premier plan, c'est l'attention aux Écritures. Je relis à partir du verset 45. « Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et Jésus leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les Écritures qu'interprétait Jésus, c'était l'ensemble des livres en hébreu qui s'adressent au peuple juif et que la communauté juive utilise. C'est le texte sacré. Or Jésus prend ses Écritures pour annoncer que c'est lui le Messie promis. Imaginons ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui écoutaient, qui avaient appris depuis leur enfance ces Écritures. Maintenant, ils se rendent compte qu'elles sont d'actualité, qu'elles sont en train de s'accomplir, de se réaliser. Et maintenant, ces Écritures deviennent pour eux une feuille de route dans la réalisation du projet de Dieu. La feuille de route, l'ouverture envers les nations, la repentance des péchés, maintenant s'adresse aux nations. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation de se tourner vers Dieu. C'est comme une lumière qui brille dans sa vie. On se rend compte qu'il faut se tourner vers Dieu. La repentance, c'est reconnaître que le chemin sur lequel on se trouve, s'il n'y a pas Dieu là-dedans, c'est le chemin vers la mort, vers le désespoir. Et le repentance, c'est se détourner vers ce chemin qui mène vers la mort pour se mettre sur le chemin de Dieu. Et sur ce chemin, il y a le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est la libération. Plus de condamnation. Le pardon, c'est l'acquittement. C'est pouvoir partir, pouvoir s'en aller libre. Le pardon des péchés, c'est la purification. Avant, on était sale peut-être, mais on a lavé, on n'est pas blanchi. On ne paie pas une couche blanche pour couvrir ce qui est mauvais. Le pardon, c'est on enlève, c'est la purification, c'est la transformation. C'est carrément un nouveau départ. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Là, Jésus parle de lui-même. On annonce la repentance, on annonce le pardon au nom de Jésus. Et ça marche pourquoi? Parce que Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui était innocent, il est quand même mort de la mort d'un coupable parce qu'il représentait l'humanité. Innocent, il a payé le prix sur la croix pour tous les condamnés. Et ressuscité, il promet, il donne la vie nouvelle, la vie éternelle. Parce qu'avec Jésus ressuscité, il n'y a plus de mort. La mort est vaincue. C'est à la base, j'ai promis d'être synthétique, toute la Bible s'est résumée en cela. Les Écritures qu'exposait Jésus, à titre d'explication, les Écritures qu'exposait Jésus, comme je l'ai dit, étaient en hébreu. Les chrétiens ont rajouté le témoignage à Jésus. Les récits des évangiles et les premières lettres qui s'adressent aux églises. Le Nouveau Testament, on appelle ça. La révélation de Jésus-Christ et le témoignage de l'Église. Parce que c'est le projet de Dieu qui se réalise jusqu'aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus. Et la Bible, si je peux le dire d'une façon grossière, ça reste pour nous une feuille de route. Comme l'a dit Sylvain dans son témoignage, si on passe par un parcours plutôt intellectuel, plutôt théologique, pour apprendre les Écritures. La mise en pratique, c'est concret. C'est réel. Et ça concerne tout le monde. L'Église reste attentive aux Écritures. Deuxième axe, dans la vie de l'Église, il y a maintenant l'appel au témoignage. L'appel au témoignage personnel. Verset 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, là où se trouvent les disciples actuels à ce moment-là. Jésus rajoute, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins. Qu'est-ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il a vu, qui parle de ce qu'il a vécu. Dans la vie de l'Église, entourée par le pasteur de l'Assemblée, entourée par les anciens, par la foi en Jésus, on vit la repentance. On vit le pardon des péchés. C'est ce que nous sommes appelés à vivre ici. Entre parenthèses, je voudrais citer une parole d'un des plus grands pasteurs de tous les temps, le réformateur Martin Luther. Martin Luther a fait cette belle remarque: comment les responsables de l'Église, comment les pasteurs, comment les anciens doivent fortifier l'Église. Qu'est-ce que c'est fortifier l'Église? L'assemblée des croyants. Martin Luther dit, fortifier l'Église, c'est rendre les consciences libres et sûres par la foi, pour que ces consciences soient sans peur ni doute. C'est profond. Fortifier l'Église, c'est rendre les consciences de chacun, de chacune, libres et sûres par la foi, pour qu'elles soient sans peur ni doute. Ça mérite beaucoup de réflexion. À mon avis, ça c'est le cœur de la réforme, dont on fête les 500 ans l'année prochaine. Et peut-être Sylvain, qui est psychologue, il peut réfléchir aussi. Parce qu'une personne qui a une conscience libre, qui a une conscience sûre, par la foi en Jésus, lui, il peut témoigner envers son entourage qui est peut-être tracassé, qui est chargé de culpabilisation peut-être, chargé de soucis. Cette personne qui a la foi en Jésus, elle a la conscience libre et sûre, peut témoigner de l'amour de Dieu qui nous enlève nos fardeaux, qui nous met sur le chemin de la vie. Le témoignage personnel, je m'arrête là parce que ce sera le thème de cette année. Vous avez entendu le moment où le thème de l'année sera annoncé, alors le thème de l'année, c'est le témoignage personnel. Le verset clé pour nous accompagner cette année, c'est la parole de Jésus à l'apôtre Paul qui était à Corinthe, qui subissait des difficultés, des empêchements, des obstacles. Et Jésus lui apparaît dans un rêve et lui dit: « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » C'est ça le verset clé pour nous cette année, quand nous allons approfondir notre compréhension, notre pratique du témoignage personnel. Le troisième axe dans la vie de l'Église, c'est la communion spirituelle avec Dieu. Jésus dit, il donne une consigne pour les siens à ce moment-là. Il dit: voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, tout ce qu'il doit faire en ce moment-là, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Et là, Jésus parle de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu qui vient habiter la personne qui met sa foi en Jésus. C'est l'Esprit Saint qui scelle la relation entre Dieu et ses enfants. Nous, ses enfants. Si nous avons la confiance en Jésus, c'est l'Esprit Saint qui unit et qui forme l'Église, l'Assemblée, qui la façonne pour qu'elle soit ce que l'Évangile appelle le corps du Christ. Parce que Jésus, il disparaît. Mais son corps, sa présence physique, c'est nous qui sommes unis et remplis de son esprit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ici à ses disciples? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc la première chose pour nous, c'est de rester réceptive à son esprit. Réceptive. L'esprit agit par la prière, par nos moments ensemble, par la prière, par l'écoute et la méditation de ce qu'on appelle la parole. Parce que si la Bible a été réunie, les livres ont été réunis par les hommes, nous croyons que ça a été l'Esprit Saint qui nous a aidés à réunir les livres de ce que nous appelons la Bible. Et en méditant la parole, nous sommes réceptifs à l'Esprit Saint. Nous sommes réceptifs à l'Esprit Saint aussi dans nos moments de partage. Surtout dans le moment de partage symbolique, nous appelons à Sainte-Cène le partage du pain et du vin qui représente pour nous le corps et le sang de Jésus, parce que l'alliance est scellée là, dans le partage du pain et du vin. Par ces moyens, nous vivons la communion spirituelle avec Dieu. Pour les esprits cartésiens, ça peut paraître un peu fou. Est-ce qu'on est des illuminés? L'action de l'Esprit Saint, ça nous paraît extraordinaire. Mais quand même, je rajoute, les chrétiens, nous, dans notre expérience spirituelle, nous sommes appelés à rester ordinaires. Moi, je retiens la parole de mon pasteur en Angleterre. Cette parole qui m'influence beaucoup. Mon pasteur a dit, le chrétien reste ordinaire d'une façon extraordinaire. Le chrétien est extraordinaire d'une façon ordinaire. Peut-être que vous allez vous dire, ce sont les Anglais qui essaient de réconcilier des contraires. Mais quand même, je vous laisse cette parole. Donc voilà les grands axes de la vie de l'Église. L'engagement du pasteur de l'Assemblée, l'engagement de l'équipe pastorale, c'est de nous accompagner et de nous diriger sur ces axes que nous laisse Jésus. Alors, je vous adresse à vous qui êtes mes frères et sœurs par la foi en Jésus, mes frères et sœurs spirituels. C'est une exhortation pour nous. Restons à l'écoute des Écritures. Restons fidèles à notre témoignage, que ce soit au Blanc-Mesnil, aux villes ailleurs, Terre d'Envol, Grand Paris, Terre d'Envol. Restons fidèles à notre témoignage, là où nous sommes. Restons en communion avec Dieu par son Esprit. Que Jésus nous conduise, qu'il continue à nous conduire. Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. » Béni soit son nom.